photographique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Chaudement.
J'imaginais déjà votre réponse.
Oui.
Oui, quand je vous ai vu arriver suant et transpirant, me doutais que vous aviez eu chaud pour arriver jusqu'au studio. Heureusement, on est à peu près au frais ici.
C'est vrai, même en sortant, même dans les cinémas, hein, on est au frais.
Et oui.
Le trajet... chaud, mais bon, on a attendu la chaleur, le soleil, le voilà.
Enfin, et comme on sera content aussi, nos auditeurs surtout, de retrouver les films que vous allez nous conseiller ce soir, à voir à la télé, bien sûr, combien ?
Oui, le soir, dans son canapé, on peut passer une bonne soirée télé. J'ai sélectionné 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Il y aura le retour, vous savez, des bons plans de Lolo, parce que
l'été
approche, les vacances aussi. Et donc, j'ai sélectionné des livres de poche qu'on peut mettre dans son sac à dos ou dans son cabas pour la plage. Et oui, on va pas partir avec un dictionnaire du cinéma sur la plage. Donc. Format poche, c'est très bien.
Ah oui, c'est une bonne idée. Effectivement, le dictionnaire, c'est un peu délicat à amener sur la plage. Oui. Effectivement, on est impatient de retrouver les bons plans de Lolo en fin d'émission. Vous l'avez entendu, lui qui passe son temps à saluer ses fans féminines le plus souvent, à répondre à son courrier, à éplucher ses lettres et autres cartes postales. Il est là avec nous, notre as de la mécanique cinématographique et de son retour de manivelle, Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes. Le dictionnaire de poche de cinéma, ça doit exister, non ?
Oui, mais néanmoins, ça reste lourd et épais. Même de poche, c'est épais.
C'est vrai. Je vous le concède.
Donc, compliqué à amener sur la plage. Pas tant si compliqué à amener sur la plage que lire aussi sur la plage. Parce que si vous voulez lire allongé, c'est compliqué.
Oui, et puis quand il y a du vent, du sable, tout ça... Ouais. C'est pas évident. Il y en a qui ont des problèmes quand même.
On voit qu'on a affaire à des spécialistes. Guillaume Sidom, faites-nous rêver.
Ah bien, ce soir, un chef-d'œuvre en forme de critique acerbe du monde du spectacle. L'ambition au féminin, peut-être, ou comment jouer sa vie, ce sera à retrouver. Vous parliez de Petite Lucarne tout à l'heure avec Laurent Martin, ce lundi, 20h55 sur Arte.
En parlant de Petite Lucarne, il en est question aussi, parce que la plupart du temps, les séries, on les voit à la télé, en streaming aussi. Et notre spécialiste des séries, dans son tribunal, là où il revêt soit sa robe d'avocat, soit celle de procureur, Grégory Com va nous parler ce soir. Encore une fois, il jette un coup dans le rétroviseur. La nostalgie, peut-être en ce moment, il y a quelque chose qui l'étreint.
Ah ouais,
comme
ouais.
Ça.
Oui, c'est
vrai.
C'est étonnant.
Le Minitel, les consoles rétro, le magnétoscope.
Et ce soir, ce sera Lost, Les Disparus, une série qui avait eu droit à 6 saisons, pas moins, et qu'on peut toujours voir sur Netflix. D'après nos notes et celles de Grégory Com, dont il vous parlera tout à l'heure. Qu'y a-t-il encore dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, après vos belles rubriques, messieurs, à leur côté, vous retrouverez l'affiche de la semaine que vous allez scruter, Laurent Martin avec l'ouvreuse, bien sûr. Il y aura les reprises sur le grand écran avant les vôtres, Laurent Martin. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions, des rencontres qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, le panorama du contenu du panier de l'ouvreuse ne serait pas complet si je ne vous disais pas que nous aurons une invitée tout à l'heure au téléphone, Emmanuel Rossignol, qui est chargé de promotion au bureau des tournages au sein de Toulouse Team, l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole. Et elle nous parlera de ce qui va se passer le 26 juin au studio Le Grand Sec. Et ça s'appelle les rencontres exceptionnelles du cinéma. À partir de 14h, le studio Le Grand 7, eh ben, vous saurez tout à l'heure sur ce studio, quand nous aurons Emmanuel Rossignol avec nous en ligne. Voilà ce qui vous attend jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Allez, on est au cinéma, vous le savez, installez-vous confortablement. La projection commence tout de suite.
Je vais vous présenter à Margot.
Oh non.
Oh si, il faut absolument qu'elle vous connaisse. Margot, tu dois la recevoir, elle te vénère et tu verras, elle sort droit d'un roman.
Ne vous en allez pas, je vous en prie. Écoutez, on met notre grand homme dans son avion, vous et moi, et ensuite on bavardera.
Elle a du caractère, la petite dame.
Ève, je crois qu'on n'en fait plus comme elle.
Elle n'a aucune prétention, elle est si franche, si directe, si compréhensive.
Si franche, si directe, si compréhensive, mais... Qui est cette Ève bardée de toutes les qualités du monde, Guillaume Sidom?
Eh bien, on va le savoir justement, Louis-Marie, pour le film Ève, signé de Joseph L. Mankiewicz, film de 1950 avec Bette Davis, Anne Baxter, George Saunders et Marilyn Monroe, casting 5 étoiles. Musique signée Alfred Newman, que vous entendrez à la fin de ma chronique. L'excellent film de Joseph Mankiewicz, Ève, que l'on appelle le plus souvent par son titre anglais All About Ève, raconte l'histoire... Alors, je vais la résumer comme nous la découvrons la première fois, car il se produit un retournement, et c'est lui qui crée une métamorphose, non pas du personnage, mais de nous-mêmes, les spectateurs. Dans ce film, Bette Davis interprète le rôle de Margot Shaining. Margot Shaining est une fameuse actrice de théâtre que, au tout début, nous voyons assister à la remise d'un trophée à une consoeur, une certaine Eve Harrington, puis... Flashback et grande idée. Au lieu de montrer Margot triomphant sur scène, le réalisateur nous la fait voir dans sa loge, en train de discuter avec des amis. Elle a la dent dure, elle raille, elle se moque. Nous pensons, tiens, une garce. Est alors introduite toute jeune fille, timidement serrée dans un imperméable, une certaine Eve Harrington. Eve qui assiste à toutes les représentations où Margot joue. Elle finit par devenir son assistante. Ses amis trouvent Margot féroce, impitoyable, dure avec Eve et nous aussi. Eve, quant à elle, baisse les yeux, s'excuse toujours, et un jour, quand Margot est en retard pour une répétition, elle prend sa place comme doublure. Margot va pester et crier « Ah, méchante garce, tu n'avais qu'à être à l'heure ». Peu à peu, nous nous rendons compte d'une manipulation. Eve a tout fait pour prendre sa place. Elle a même tenté de lui voler son fiancé. Et Eve devient comédienne et est récompensée. Et nous, spectateurs, sommes métamorphosés. De naïfs que nous avions été de croire ce que Eve finalement présentait d'elle-même, nous sommes devenus lucides. Le spectateur ne doit pas toujours croire tout ce qu'un personnage dit au cinéma.
Oui, mais Mankiewicz est un grand cinéaste de la parole, justement.
Ah oui, il est l'auteur désigné pour mettre en scène ce drame où le jeu déborde de la scène pour mieux contaminer les relations humaines. Ce film, très célèbre et couvert d'Oscars, je vais y revenir, relate la fulgurante et irrésistible ascension de Eve Harrington, actrice prête à tout pour réussir, racontée par ceux qui connaissent ses secrets et sont abusés par la jeune arriviste. Mankiewicz signe avec ce film une satire sur le monde cruel et cynique du théâtre, mais surtout de magnifique portrait de femme, Margot Shaining, vedette angoissée par le vieillissement, et bien sûr Eve, qui va vampiriser son idole et tenter de prendre sa place. Bette Davis, Anne Baxter sont admirables dans les rôles de Margot et Eve. Le film est constitué d'un long flashback au cours duquel interviennent différents points de vue. Il va témoigner de la virtuosité narrative du réalisateur, et Eve Harrington s'apprête donc à recevoir la plus haute distinction pour une interprétation théâtrale. Et sur cette première image, eh bien Mankiewicz greffe une question: comment en est-elle arrivée là, quelques mois seulement après avoir été engagée comme secrétaire par la grande comédienne Margot Shaining? Après ce prologue qui nous propose d'aller au-delà des apparences, Mankiewicz use de son procédé préféré, le flashback, donc, pour décortiquer en 3 témoignages le parcours fulgurant de cette intrigante hors pair. Rien de mieux que le milieu du théâtre pour aborder ces 2 thèmes chéris, l'ambition et la manipulation. Nous ne voyons jamais Eve sur scène, c'est exprès. Son talent saute tellement aux yeux dans la vie quand elle joue la douce et modeste fan. Face à cette jeune vipère qui cherche à lui voler la vedette, Margot, la diva de déjà 40 ans, va rugir, taper du pied pour finir par se retirer du jeu.
All About Eve est une grande œuvre sur l'hypocrisie, un peu comme Tartuffe, non ?
Nous sommes envers Eve, évidemment, comme Madame Pernelle au début de la pièce de Molière qui dit « C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous. » Au moins dans Molière, y a-t-il des doutes dès le début, en particulier des domestiques plus perspicaces que l'habilleuse de Margot? L'autre grande différence est que Tartuffe est vaincu, Molière est un optimiste, ou du moins un bon flatteur du roi, puisque c'est lui le sauveur à la fin, comme dans un opéra maoïste. Dans la vie, le plus souvent, eh bien, c'est Tartuffe qui gagne. Eve gagne aussi. Ils ont joué un personnage auquel nous avons trop cru. Pourtant, l'un comme l'autre se sont dévoilés par cet indice imparable. L'obséquiosité, c'est donc l'excès de politesse, de respect par servilité ou flatterie, un peu comme avec vous, cher Louis-Marie. Le spectateur pense souvent avoir un coup d'avance. Mankiewicz ménage des surprises à l'instar de cette scène finale d'une cruelle ironie. On trouve toujours plus fourbe que soi. C'est donc la morale d'Ève, tableau grinçant de l'industrie du spectacle et du star system. Ce regard implacable n'empêche pas le film de Mankiewicz de décrocher 6 Oscars, dont ceux du meilleur scénario, du meilleur film et du meilleur réalisateur en 1950, comme si Hollywood avait reconnu la pertinence du diagnostic. À retrouver donc ce lundi 23 juin, 20h55 sur Arte et en Blu-ray et DVD chez Century Fox Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Guillaume Sidom vous l'a dit, c'est Alfred Newman qui signe la partition du film de Joseph Léo, c'est son deuxième prénom, Mankiewicz, All About Eve, Eve en français. Et sur ces accents à la fois... Il y a quelque chose d'un peu charmant comme dans ces mélodies si typiquement hollywoodiennes, mais aussi un peu angoissant et stressant, comme il savait aussi si bien le faire, en particulier un petit monsieur qui s'appelait Alfred Hitchcock, mais Mankiewicz n'avait rien à lui envier. Et bien sur ces accents, nous retrouvons notre invité qui est en ligne. Bonsoir Emmanuel Rossignol. Vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Ah, j'avais peur que nous soyons perdus.
Non.
Alors, Emmanuel Rossignol, voilà comment je vous ai présenté tout à l'heure. Vous allez me dire si j'ai fait une bêtise. Vous êtes chargé de promotion au bureau des tournages au sein de Toulouse Team, l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole, c'est ça ?
Tout à fait. C'est un peu long, mais c'est ça.
Alors, c'est quoi ? Expliquez-nous juste ce qu'est le bureau des tournages.
Alors, le bureau des tournages, c'est un service qui est là pour accompagner les productions qui décident de poser leur caméra sur Toulouse, quel que soit le format. Ça peut être un clip, un court-métrage, une série, un long-métrage. On est là pour leur faciliter la ville. On est la porte d'entrée unique, le guichet unique, pour toutes leurs demandes et tous leurs besoins, tout le temps du tournage.
Autrement dit, si d'aventure je voulais réaliser un film, je vais vous voir et je dis par exemple que j'ai besoin d'un château avec un parc ou d'un bord de rivière, vous êtes capable de me trouver ça?
Mais on va travailler ensemble et selon vos besoins, on va essayer de trouver le décor qui correspond le mieux à vos attentes, tout à fait.
Ah, peu de gens en fait. Le grand public connaît peu l'existence du bureau des tournages. Pourtant, on a eu l'occasion de voir pas mal de productions, que ce soit des téléfilms, des films, des publicités, des clips qui se passaient dans la Ville Rose.
Oui, c'est vrai qu'on est peu connu parce qu'on est des métiers de l'ombre et qu'on travaille de professionnel à professionnel. C'est pas du tout un service qui est ouvert au grand public, ce qui explique qu'on est souvent méconnu. Voilà, on travaille dans l'ombre, on va dire.
Alors, le 26 juin prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, allez, 9, vous organisez les rencontres exceptionnelles du cinéma, qui là aussi sont réservées aux professionnels, mais c'est intéressant parce que ça va se passer au studio Le Grand 7, et là aussi, ce studio, il est peu connu du grand public, et pourtant, il est célèbre dans le monde du cinéma, parce qu'il y a un décor assez rare au studio du Grand 7, non?
Oui, tout à fait. Le studio du Grand 7, il est situé à Colomiers. Il a ouvert ses portes en 2020, quelques jours avant la pandémie. Et ce qui fait qu'il est atypique, c'est qu'il a l'intérieur dans son studio, il possède une cabine d'avion entièrement modulable. Donc on s'y croirait, hein, le chef déco Laurent Foulquier, selon les demandes des productions, vous module cette cabine d'avion en première classe, classe économique, il vous met le nombre de sièges que vous voulez. Et ce qui est très pratique, c'est que les producteurs, les réalisateurs placent leurs caméras où ils le souhaitent, donc plus besoin de négocier des mois et des mois avec les compagnies aériennes pour tourner dans un avion, il faut venir au studio Le Grand 7 pour ça.
Et donc venir du côté de Toulouse, de Colomiers,
oui,
du Grand Toulouse. Guillaume.
Oui, Emmanuel Rossignol, combien de tournages sont réalisés chaque année à Toulouse, si on peut les énumérer, et comment expliquer que la Ville Rose soit si attractive pour le 7e art?
Alors les chiffres 2024, pour vous donner un ordre d'idée, on a accompagné à peu près 120 projets, tout confondu, hein, tout format, ce que j'expliquais tout à l'heure, et pro et amateurs aussi confondus. C'est vraiment, là je vous donne les chiffres, les grands chiffres. Alors c'est vrai que Toulouse est une ville qui généralement très photogénique et plaît, mais elle a la qualité de son défaut, c'est qu'elle est rouge, c'est qu'elle est rose, donc la brique peut complètement séduire les réalisateurs et réalisatrices lorsqu'ils viennent pour la première fois à Toulouse, mais elle peut aussi quelquefois freiner selon les besoins de tel ou tel scénario. Si, vous savez, il y a des fois des réalisateurs qui souhaitent tourner à Toulouse, mais qui veulent tricher une séquence parisienne, par exemple. Bon, mais là, sur Toulouse, c'est un peu plus compliqué.
Oui, parce que c'est sûr, l'architecture toulousaine est particulière.
Mais elle est très atypique, oui. Enfin, Toulouse est reconnaissable parmi toutes les villes.
Exactement, on ne peut pas bluffer avec Toulouse.
Alors, c'est ça.
Je disais que vous organisiez les rencontres exceptionnelles du cinéma, donc jeudi 26
oui,
juin.
Oui, c'est la première édition.
C'est la première édition, alors il y a plein de choses proposées. Aux professionnels, ils pourront découvrir les effets visuels, les techniques de matte painting, le doublage, et puis des choses plus larges. Cet après-midi de travail commence par une présentation de l'écosystème cinéma. Vous en avez fait en partie, vous nous en avez donné en partie une idée de ce que c'était l'écosystème du cinéma et l'audiovisuel en Occitanie.
Oui, alors après, voilà, cette journée, comme vous l'avez si bien dit, on va ouvrir le bal avec une présentation générale de qu'est-ce que c'est tourner à Toulouse et qu'est-ce que c'est tourner en Occitanie, de façon plus large, puisque ces journées REC, ces rencontres exceptionnelles du cinéma, sont pilotées par, bien sûr, le studio du Grand 7, mais accompagnées par nous, Bureau des Tournages, mais aussi l'antenne Occitanie Film, qui a une vision, on va dire, plus globale, sur tous les tournages occitans. Donc on a voulu commencer par une introduction un peu large, donner un panel un peu large avec quelques chiffres et quelques grandes, grands projets. Et ensuite, on ira sur des présentations, sur des démonstrations pour montrer qu'à Toulouse, on sait faire du cinéma, on a des techniques, on a des techniciens. Et voilà, on aura, comme on dit, pour tous les goûts, des doublages, des présentations, des démonstrations d'effets visuels. On a des comédiens aussi qui vont intervenir pour parler de leur métier. Des gens qui travaillent plutôt dans la déco. Enfin, ça va être très varié. On a voulu vraiment balayer tous ces métiers peu ou méconnus, faire en sorte qu'on se retrouve tous. On est content parce qu'il y a plus de 150 inscrits à cette journée. On a mis aussi au bout du jour des ateliers un peu plus thématiques sur l'éco-production, sur la présentation de collectifs comme l'Étoile Verte qui travaille vers des pratiques éco-responsables, sur la présentation des fonds d'aide aussi que met en place la région Occitanie, que met en place aussi Toulouse Métropole. Enfin voilà, c'est vraiment repartir de cette journée en se disant « Ah oui, ok, à Toulouse, il y a tout ça et je peux vraiment faire du cinéma si j'en ai envie. »
Oui, oui, vous parliez de présentation des coproductions internationales, donc depuis la région Occitanie, c'est dire si on vient de loin, hein, d'outre-Atlantique même, il semblerait, pour un futur plus ou moins proche.
Oui, oui, bien sûr, et ça c'est l'APIFA qui va s'en charger, c'est l'association des producteurs indépendants qui travaillent de plus en plus à l'international et qui vont nous donner, lors de ces ateliers, quelques exemples bien précis de coproduction.
Eh bien, on pourrait encore parler longuement. Il y a quelque chose qui m'intrigue, une dernière chose avant de vous laisser partir, Emmanuel Rossignol. Deuxième clap, qu'est-ce que c'est cette nouvelle ressourcerie de décors toulousains?
Alors, deuxième clap, oui, ce sont des jeunes qui sortent de l'ENSAV et qui ont une idée géniale de faire du cinéma autrement en recyclant tout le côté déco, parce que c'est une industrie assez polluante, des fois le cinéma, avec des feuilles déco qui sont, oui, qui servent 3-6 semaines et sont après jetées. Et il y a une vraie envie de recycler, de réutiliser. Donc ils ont leurs locaux au Timbre, c'est l'ancienne banque postale à la barrière de Paris sur Toulouse. Ils ont des grands locaux où ils sont amenés à recueillir sur des fins de tournage de la déco pure, qu'ils ensuite vont relouer, redistribuer pour des tournages futurs, prochains sur Toulouse.
Vous viendrez nous en parler de ces tournages futurs ?
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Rossignol de nous avoir consacré un peu de temps. On sait enfin ce qu'est l'agence et le bureau des tournages et Occitanie Film, en fait le bureau des tournages dont vous êtes une des chevilles ouvrières. Merci Emmanuel Rossignol.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, Avignon de Joan Dionnet. D'ailleurs, messieurs, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire les cigales, qu'on soit dans l'ambiance d'Avignon, comme les inconnus?
Je ne sais pas les faire, les cigales.
C'est un peu plus fourmi que cigales.
Ça fait plus grillon. C'est pas extraordinaire.
Oh, tant pis, ça passera.
Oh, mince.
Avignon de Joan Dionnet, avec Baptiste Le Caplain, Alison Wheeler et Lies Salem. comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y croise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d'un quiproquo pour se rapprocher d'elle, Stéphane s'enfonce dans un mensonge qu'il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. En effet, il va lui laisser croire qu'il est le fameux Rodrigue dans le Cid, avec la fameuse tirade que vous connaissez tous, bien sûr. Nous partîmes en Fiat 500 et nous nous vîmes en Peugeot 3008.
C'est à peu près, ça.
Ah, ouais. Réviser mes classiques.
Ouais, ouais. Corneille hésitait entre la Fiat 500 et vous avez dit quelle voiture, la 3008. Oui, d'accord. Allez, on vous laisse continuer.
Allez, croisé dans l'amour ouf, la nuit du 12 ou adieu les cons. Excuse-moi. Joanne Dionnet passe pour la première fois derrière la caméra avec un objet à la frontière entre la comédie romantique et puis la satire douce amère du monde théâtral qui repartit du dernier festival de l'Alpe d'Huez avec le très convoité Grand Prix d'ailleurs et puis même deux autres statuettes. Plutôt amusant, Avignon s'interroge l'air de rien sur la peur d'être jugé et la valeur de l'art. Le théâtre de boulevard peut-il forcément, vaut-il forcément moins que le théâtre classique, mais sans se poser en donneur de leçons, armé d'une tendresse ironique qui offre à ce film d'apparence modeste une résonance bien plus large. C'est aussi un vrai film de troupe avec Alison Wheeler, je l'ai dit, Elia Salem, Rudy Milstein et Joanne Dionnet lui-même, qui transpire d'ailleurs assez le vécu de ces acteurs. Alors vous savez, à Avignon, il y a le fameux Festival Off, donc il faut distribuer les tracts sous le soleil et les cigales, les affiches scotchées au petit matin, les salles à moitié vides, les embrouilles, les amourettes. Il y a là-dedans une humanité débordante. Il y a un humour anglo-saxon proche des comédies d'Alain René. Tout va très vite, le script refusant les scènes de transition que certains réalisateurs considéreraient comme essentielles. Dionnet parvient par ailleurs à jouer avec le cadre sublime que lui offre la Cité des Papes pour faire pousser tout un tas d'intuitions de cinéma qui, ajoutées les unes aux autres, finissent par donner quand même au projet une solide envergure visuelle. Voilà un film généreux qui devrait remplir les salles sans même avoir besoin de tracter du coup. Petite revue de presse sur ce film abus de ciné à bien aimé. La comédie prend aisément son envol grâce à des personnages secondaires parfaitement calibrés. Même chose pour cinématiseur, à la fois comédie romantique et film de troupe. Avignon questionne le goût des uns et des autres avec un charme fou, parfait pour démarrer l'été. Les Irrécuptibles n'ont pas aimé.
C'est étonnant.
Oui, bah, ils aimeraient. Si vous n'avez pas la carte... Vous...
Voilà. Effectivement, non. C'est une trop comédie.
Oui, peut-être, ouais. Une comédie tristement fade où l'on cherche encore où est le théâtre et la vie. Comment peut-on faire une lettre d'amour à Avignon et y mettre si peu d'amour? Soyons sérieux, passons notre chemin. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Enzo de Robin Campillo avec l'excellente Elodie Bouchez et Pierre-Francesco Favino. Histoire d'Enzo, 16 ans, qui est apprenti maçon à La Ciotat. Et il est pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures. Et le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. Et c'est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. Et ils se sont rencontrés à l'IDEC au début des années 80 et pendant 40 ans, leur complicité amicale comme professionnelle n'a connu aucun nuage. Je parle bien sûr de Robin Campillo, le réalisateur de 120 battements par minute, qui a eu le Grand Prix à Cannes en 2017 et qui a co-écrit ou monté, et parfois les deux, tous les films de Laurent Cantet, hein, c'est le duo dont on parle ce soir, qui avait eu la Palme d'Or en 2008 avec Entre les Murs. Alors que quand on a appris que Laurent Cantet était atteint d'un cancer incurable et qu'il a voulu se lancer dans ce projet ultime, Enzo, il a spontanément demandé donc à son ami Robin Campillo de l'accompagner, y compris sur le plateau, les jours où il ne se sentait pas en état de le faire. Et bien sûr, Campillo a évidemment accepté. Mais après avoir trouvé quelques-uns des principaux interprètes, dont la révélation, ce jeune acteur Eloi Pohu dans le rôle titre, Laurent Cantet s'est éteint le 25 avril 2024. Et avant le premier clap, et donc c'est Robin Campillo qui a repris le flambeau, qui a donc mis en scène seul ce film posthume, qui a d'ailleurs ouvert la quinzaine des cinéastes en 2025. Voilà. Un beau film d'émancipation centré sur un ado de 16 ans, et on ne peut pas s'empêcher en le voyant d'avoir une pensée émue pour Laurent Cantet, qui lui, parfois, nous a tant émus avec ses films, notamment Entre les Murs. À l'affiche Aussi, cette semaine, on peut voir Sur la route de papa de Nabil Aïta Kaouli et Olivier Dacour au Pâté Wilson. La tournée de Florian Essig, qu'on peut voir par exemple au CGR à Blagnac. On peut voir aussi Peacock de Bernard Wenger, le frère d'Arsène sûrement.
Oui, Olivier Dacour, c'est pas le footballeur.
Oui, c'est, je sais pas, oui, c'est un homonyme. Peacock, on peut le voir. Pardon. Petit chat à la gorge. À l'ABC Toulouse, au Grand Palais à Cahors, on peut voir aussi The Return, le retour d'Ulysse, d'Uberto Pasolini. L'Utopia Bordeaux Rouge, Pasolini, c'est un nom très connu dans le cinéma italien, ça.
Oui, il fait partie de la famille.
C'est la famille, hein.
C'est la famille.
J'allais poser la question. Film très intéressant, Knick Up, de Rich Piepat, qu'on peut voir au CGR Paris-Montauban. C'est le biopic d'un groupe de rap irlandais de Belfast qui existe et qui est vraiment très, très intéressant.
Et c'est eux qui interprètent leur propre rôle.
Et c'est eux qui interprètent leur propre rôle, oui, vraiment à découvrir. On peut voir aussi Love Rebel, de Ligla Ingólfsdóttir, sûrement un film qui vient de là-haut, d'Islande. Ça va nous rafraîchir. Un film qu'on peut voir au Régent à Saint-Gaudens.
Suédois.
Ah, c'était pas loin. Quoique. 28 ans plus tard, le fameux film de Danny Boyle qui fait écho à 28 jours plus tard. Il y a 28 semaines plus tard.
Nous parlions la semaine dernière de la reprise de 28 semaines plus tard. Et voilà donc la suite.
Ouais, 28 ans plus tard. Et après, ils feront sûrement 28 siècles plus tard, mais on sera plus là. avec le fameux Cillian Murphy qu'on ne présente plus.
C'est pas sûr qu'il y soit. Hein. On prétend qu'il est un des zombies, mais il n'est pas crédité au générique.
Caché, l'acteur. Ça, c'est bien du Danny Boyle, ça, pour nous faire ça. Les films d'animation de la semaine, ce sera Maya, donne-moi un autre titre, un film d'animation dès 4 ans de Michel Gondry, à l'American Cosmograph, et on peut voir aussi Elio, un film d'animation dès 8 ans des studios Pixar.
Heart took his heart, big skins, he's sick of many mart. Every son on a Mars bar, two dwarfs all I can shin to my hard bar. Heart dug his heart, hustle in my felcher, yeah. Far but crack when I'm on tour, no top marsh pit, sweaty balls on core. La alaka canna, doing stuff, Kermit con la kale. Muggly and tuggly, fat higgin' branches, tour a glass than a hoogly. Care out of his fade, care with her magic was mal into me. Fuck all else, the Johnny Hart and Shaw, and it's a rashing and shove a two, get a pack of bras. Caught in the loop, like I'm trying to read a book, what's the same page over and over and over and over. Over and over and caught in the loop. Like I'm trying to read a book, what's the same page over and over and over and over and over and over. Ah fuck, I just watch a movie. Gaff is a loop, Groundhog 8.2. It's been too long, I need an encore and sweaty balls too.
C'est Knick Up, le groupe Zart, Argus Zart. Je sais même pas si je le dis convenablement parce que c'est du gaélique et c'est la particularité de la plupart des titres de Knick Up, c'est qu'ils le font en gaélique, mais aussi en anglais. Mais c'est une façon de s'opposer au gouvernement anglais puisque ça se passe à Belfast et que ce bout d'Irlande est toujours anglais. Et c'est une façon de résister, de s'opposer à eux et parler en gaélique aux flics anglais qui ne comprennent rien.
It's been too long, I need an encore and sweaty balls too. Gaff is a loop, nothing to do. It's been too long, I need an encore and sweaty balls too. Heart took his heart, big skins, he's sick of many mart. Few loose carry sun on a Mars bar, two dwarfs all I can shin to my hard bar. Heart took his heart, cussing in my felcher, yeah. Far but glad when I'm on tour, no top marsh pit, sweaty balls on court.
Je me garderai bien de vous donner leur nom, car je risquerais de les écorcher, puisque c'est du gaélique, c'est irlandais et c'est difficilement prononçable. Toujours est-il que c'est Knick Up qui mérite largement le détour, et le film et leur musique. Pour le moment, on retrouve Grégory Com qui s'en vient sur la piste des disparus de Lost.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, il se passe quelque chose d'étonnant et pour vous, comme moi, qui avons un certain âge, nous ne dirons pas lequel parce que nous sommes jeunes dans notre tête, comme tous les gens autour de la table de Louis-Paloise, évidemment, Mais nous avons un certain âge, vous et moi. Et nous avons connu Lost à, comme le diraient les jeunes, à son prime. C'est-à-dire au moment où vraiment tout le monde attendait l'épisode suivant, la saison suivante, notamment sur TF1, et où c'était une vraie rencontre formidable entre une série qui cassait les codes. Et aujourd'hui, les jeunes découvrent cette série et disent « Ah, mais si elle était sortie maintenant, que ça soit sur TikTok ou sur X, Twitter, on en parlerait toutes les semaines et ça serait absolument un phénomène incroyable. » Alors, pensez-vous, Louis-Marie, qu'ils ont raison? Je me suis posé cette question. Vous savez que j'adore me poser des questions et y répondre. Lost est une œuvre culte. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut réhabiliter Lost, Lost n'a pas besoin d'être réhabilité. C'est culte. Ça a cassé le monde des séries télé dans le bon sens du terme. Ça a révolutionné les choses, notamment sa saison 1. Et ces trois premiers épisodes qui, encore aujourd'hui, sont exceptionnels et qui appliquaient déjà la méthode Lost, c'est-à-dire aventure, survie, exploration et flashback. Mais est-ce que, véritablement, il faut réhabiliter l'ensemble de l'œuvre? Alors, Lost, ça parle de quoi? Lost, c'est un groupe de personnes échouées sur une île suite à un crash d'avion et qui vont tenter de survivre face à un environnement hostile et une réflexion aussi sur du surnaturel, tout en les poussant à se poser des questions sur leur passé. Là-dessus, vous avez vraiment, c'est une série, ce qu'on appelle une série chorale. Énormément de personnages, certains personnages sont plus mis en avant que d'autres, mais vous avez énormément de personnages, tous très intéressants, extrêmement bien écrits, vraiment. Et une saison 1 qui avait vraiment tout cassé en termes aventure. Mais on y voyait déjà un peu les failles. C'est une série qui s'est construite sur la hype. Quand on dit qu'elle se construit sur la hype, c'est qu'elle vous tease, voilà ce qui va se passer plus tard. Vous allez voir, on va vous faire des révélations de dingue. Et quand ça va arriver, vous allez vraiment vous dire que c'est la meilleure série de tous les temps. Ça n'arrive jamais. Lost ne répond pas à vos questions. Elle répond à certains. La caricature de dire que Lost ne répond à aucune question n'est pas vraie. On a des réponses, mais certaines sont décevantes et d'autres où on n'a absolument aucune réponse. Et la question que je me suis posée, parce que le final, en plus, a énormément déçu. Il ne répond à pas grand-chose et même fait une ouverture énorme. C'est un vrai final, hein, mais fait une ouverture énorme sans jamais nous donner... je dirais l'ampleur soit de la menace ou de ce que peut apporter l'île. Ça avait énormément déçu. Ça avait même fait un flop. Et d'ailleurs, Lost était en perte d'audimat parce que si elle s'est terminée, c'est pas que les scénaristes voulaient la terminer. C'est que il y avait plus assez de personnes qui la regardaient. Donc aujourd'hui, si on la prend comme une œuvre entière, elle a des grandes qualités, notamment ses personnages. Il y avait des très gros défauts, des longueurs. Des saisons qui ne sont pas obligatoirement utiles, des revirements de situations ou de personnages qui ne sont pas particulièrement crédibles. Et surtout, elle avait un vrai problème, c'est que dès qu'il y avait un des acteurs qui déconnait un peu, c'est-à-dire qui faisait pas mal de choses illégales dans la vraie vie, il était viré sans sommation. Donc, ce qui fait que son personnage qui devait avoir une évolution, il mourait ou il partait. Après, c'était aussi l'intérêt de la série. C'est une série qui n'a jamais hésité à tuer des personnages importants bien avant Game of Thrones. Et en fait, j'ai envie de dire Lost, c'est un peu le Game of Thrones de l'époque. Parce qu'en fait, c'est une série où toutes les semaines, on se réunissait pour en parler, pour anticiper ce qui allait se faire avant l'épisode, avant qu'il passe sur TF1, et on le débriefait longuement, et surtout pendant les périodes où on attendait les saisons. Et comme Game of Thrones, elle a déçu sur la fin, elle a déçu dans ses réponses. Donc aujourd'hui, faut-il réhabiliter Lost? La réponse est non, elle n'a pas besoin, elle est culte. Faut-il à nouveau regarder Lost? Sur sa première saison, oui, c'est une œuvre extraordinaire, qui mérite d'être regardé, et J.J. Abrams, parce que c'est lui, a fait du très bon travail sur sa première saison, et encore aujourd'hui, ça devrait être étudié, cette façon de raconter des histoires. Faut-il regarder les autres? J'ai envie de dire, si vous avez du temps à perdre, c'est pas désagréable, moi je me suis prêté à l'exercice, c'est vraiment pas désagréable. Il faut juste partir du principe que vous n'aurez pas toutes les réponses, et que vous suivez, en fait, une bande d'aventuriers, et une analyse de comment ces gens réagissent par rapport à des choses incompréhensibles. À partir de là, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, chers auditeurs, votre temps est précieux. Vous pouvez le dépenser devant la saison 1 de Lost. Et si vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez continuer l'aventure. Vous ne serez pas déçus. Je vous remercie.
Eh bien voilà, la prescription de Grégory Tcom. Vous savez ce qu'il vous reste à faire à propos de Lost. C'est Michael Giacchino qui signe la bande originale de Lost.
Je m'appelle Bond, James Bond. Et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Ça fait bien chanson de film, ça, hein ? Vous trouvez pas, messieurs ?
Tout à fait, ouais.
Oui. Et si je vous dis Siouxsie and the Banshee ?
Oui.
Eh bien, c'est elle et les Banshees, Siouxsie et les Banshees, qui chantent ce titre Face to Face. Bon, dans la mélodie, ils ont été un peu aidés par Danny Elfman. Je vous mets sur la voix.
Oui.
Dans quel film peut-on entendre cette chanson ? Eh bien, ce titre, fastoche, Batman.
Mal le défi.
Évidemment. Face to Face, là où on fait la connaissance d'un autre adversaire de Batman, devant la caméra de Tim Burton, à savoir Osvaldo Cobblepot, plus connu sous le nom du...
Pingouin.
Du pingouin. Mais pourquoi est-il un pingouin, ce pauvre Oswald ? Eh bien, parce qu'il est né difforme et qu'il est le fils unique d'une riche famille. Et que comme il était difforme, il n'en voulait plus, ils l'ont jeté à l'égout. Et il a été recueilli par les manchots du zoo de Gotham
Bien
City.
Sûr.
Eh oui, qui l'ont élevé. Ouais. Et le voilà qui va avoir quelques démêlés avec les instances dirigeantes de la ville. Et puis, il voudra se venger, mais il trouvera Batman sur sa route. Le deuxième volet des aventures de Batman, tout aussi réussi après le premier par Tim Burton. Ces deux opus sont assez extraordinaires, chaque fois avec Michael Keaton dans le rôle de Batman.
C'est pas Julien Lepers plutôt qui joue ?
Ah oui, c'est le sosie, c'est vrai.
Et il est...
Peut-être à la suite.
Il est proprement magnifique. Alors vous pourrez voir Batman, le défi, jeudi, c'est-à-dire demain, 19 juin, à 19h30. Et puis un autre Batman...
Au Pathé Wilson.
Oui, c'est à la Cinémathèque, bien sûr. C'est la programmation de la Cinémathèque pour la Galaxie Burton. Et là, c'est un film de Tim Burton. Sinon, il y a un autre Batman aussi programmé, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Deuxième film réalisé par Christopher Nolan, proprement magnifique lui aussi, avec sans doute, à mon avis, avec Nicholson... le plus beau des Jokers, en la personne de Heath Ledger, qui réalise une performance fabuleuse dans ce film. Ne serait-ce que pour lui, il faut voir ce film, The Dark Knight. C'est mardi 24 juin prochain, à 19h30 aussi au Pathé Wilson, la programmation de la Cinémathèque. Sinon, qu'est-ce qui nous reste à découvrir ? Eh bien, concernant les road movies, nous, vous pouvez toujours aller les voir, c'est jusqu'au 29 juin, grâce à nous, cinéma@radioprésence.com, et vous foncerez pour monter dans la bagnole des deux cousins de Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, ou encore dans le combi de la famille de la petite Olive, qui s'en vont Little Miss Sunshine, à savoir participer à un concours de Little Miss.
Oui.
Voilà pour la programmation de la Cinémathèque, Galaxy Burton, Road Movie. Sinon, il vous reste au Pathé Wilson, le troisième volet des aventures d'OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, film qui n'est pas réalisé par Michel Hazanavicius, mais par Nicolas Bedos, mais on trouve toujours Jean Dujardin, Pierre Niney. Qui joue le rôle d'un agent secret beaucoup plus efficace que les OSS 117, et il y a Fatou Ndiaye qui interprète la beauté qui est nécessaire d'avoir dans un film d'espionnage, même s'il est satirique. C'est au Pathé Wilson, vendredi 20 juin à 19h30. À l'American Cosmograph, vous pourrez voir Un rêve plus long que la nuit. Je me mélangeais les crayons dans mes notes. Le film de Nikhyd Saint-Phal, deuxième film de Nikhyd Saint-Phal, qui était surtout une artiste plasticienne, qui a été mise à l'honneur il y a peu de temps.
Aux abattoirs.
Oui, et aussi au cinéma, hein, oui. pour une biographie la concernant, avec Charlotte Le Bon dans le rôle de Niki de Saint-Phal et Céline Salette qui réalisait là son premier film. C'est en 76 donc qui est, je le disais, célèbre pour ses performances, Niki de Saint-Phal, provocatrice d'action painting, on en a une idée dans le film de Céline Salette, ou ses sculptures courbes et joyeuses, la série des Nanas. Et avec ce deuxième film, elle va utiliser ses sculptures et puis va raconter une histoire de conte de fées un peu particulier, mais qui n'est pas sans rappeler Alice au Pays des Merveilles, puis c'est une petite fille perdue dans un monde d'adultes. On y est presque. Vous pouvez donc découvrir ce film, ou le redécouvrir, mais à mon avis ce sera plutôt le découvrir, Un rêve plus long que la nuit, de Niki de Saint-Phal à l'American Cosmograph. Allez sur leur site pour avoir les horaires des séances. Et puis, pour finir notre tour d'horizon des longs métrages, des reprises, Des années de silence, appelé en Algérie entre 1954 et 1962. Ça, c'est Émile Navarro qui le signe, un documentaire de 2021 que vous pourrez voir à l'Utopia Bordeaux Rouge demain, jeudi 19 juin à 20h. L'histoire de ces jeunes gens partis faire leur service en Algérie et puis qui sont revenus touchés, marqués et qui n'ont jamais parlé ou très peu parlé de ce qui leur était arrivé, de ce qui s'était passé là-bas. Et petit à petit, la parole s'est un peu délivrée et Émile Navarro en est le témoin en allant filmer ses témoignages et ses anciens combattants d'Algérie. Des années de silence, appelé en Algérie 1954-1962, c'est le titre complet du film d'Émile Navarro, que vous pouvez voir demain, jeudi 19 juin à 20h à l'Utopia Bordeaux Rouge. Voilà pour le grand écran. Le petit, c'est à vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir, mercredi, sur Arte à 21h, avec Kursk de Thomas Vinterberg, avec Léa Seydoux et Mathias Schulartz. Le film relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Kursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Circulaire, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé. En mêlant habilement les éléments d'un film catastrophe réaliste et d'un drame humain, le film parvient à capturer l'angoisse et la tension ressentie par les sous-mariniers. Vendredi, France 5, 21h, ce sera Un balcon sur la mer de Nicole Garcia avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Marc, marié, père de famille, une vie pépère, rencontre une jeune femme et en elle, il pense reconnaître Cathy, son grand amour, adolescent. Grande et petite histoire se côtoient dans cette belle romance dramatique avec Jean Dujardin, tout en retenue, toujours épatant. Samedi, France 4, 21h, souvenir. Oubliez m'excuser. Souvenir de Marnie, dit Romansa Yonebayashi. L'histoire d'Anna, 12 ans, qui est orpheline, elle tente de soigner son asthme au bord de la mer et va découvrir comme ça une grande demeure abandonnée et mystérieuse au cœur des marais. Elle va partir en exploration, un conte animé, onirique, délicat et très émouvant sur la solitude et le mal-être adolescent. Dimanche, Arte, 21h, un petit Tarantino, messieurs, Jackie Brown avec Samuel Jackson et Pam Grier. Jackie Brown, hôtesse de l'air, profite de ses voyages pour convoyer de l'argent pour le compte d'un trafiquant d'armes. Un matin, elle est arrêtée par deux flics et, en échange de sa liberté, elle se voit proposer de coopérer sur une bande originale somptueuse, comme toujours chez Tarantino, un polar étonnant au dialogue mémorable, soutenu par la distribution très brillante. À noter, vous qui êtes cinéphile, vous remarquerez que le film s'ouvre sur un plan inspiré de la scène d'introduction du lauréat, dans laquelle Dustin Hoffman se laisse porter sur un tapis roulant, l'image cadrée à la ceinture. Lundi, sur Arte, 21h, Nous Paysans, documentaire de Fabien Béziat et Agnès Poirier. À travers leurs témoignages, de nombreuses images d'archives et la voix de Guillaume Canet, l'histoire d'une incroyable épopée, celle des paysans français. Un documentaire vraiment passionnant et dense sur le monde de la terre. Les conseils de lecture en format poche, ce sera L'espace du rêve de David Lynch. Entre biographie et mémoire, David Lynch raconte pour la première fois sa vision singulière du cinéma. Vous le retrouvez au livre de poche pour 10€. La mafia à Hollywood de Tim Adler. Pour la première fois, un ouvrage dévoile les liaisons dangereuses entre l'industrie du cinéma américain et la mafia. Un livre que vous retrouvez aux éditions Nouveau Monde pour 8€. Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois?
Oui, que lundi 21h, c'est bien Ève sur Arte et que Nous Paysans, c'est sur France 5.
C'est sur France 5. Je me suis trompé?
Arte.
J'ai dit Arte. Je m'en excuse, c'est bien. France 5, nous paysans. Et puis un dernier livre, allez. Comment écrire un film en 21 jours? Bah, c'est nickel, ça.
Ah ben, c'est ce qu'il
vous,
nous fallait.
Vous qui prenez des vacances de 21 jours, lui, Marie.
C'est ce qu'il nous fallait.
Vous allez nous écrire
un scénario.
Un scénario, hein, ouais. Un livre de Vicky King. Alors, ça analyse tous les éléments qui constituent une histoire, bien sûr. Hein. Le contenu, les dialogues, la structure, le rythme, etc. Aux éditions Dixit, bon, c'est un peu cher, 24 euros, mais bon, on peut se faire plaisir. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
I am vengeance. I am the night. I am Batman.
Oups là, il faut pas l'agacer, dites-moi, Laurent. Allez, il nous reste 6 minutes. Messieurs, je vous propose un petit jeu. Je vous fais écouter une chanson qui est l'adaptation française d'un titre fameux américain et qu'on peut entendre dans Avignon, le film qui est sur les écrans aujourd'hui. Allons-y.
Nous sommes prêts.
De ton visage à mon village, y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer, faire un pont. Chante si fort entre nous deux.
Je vous sens sans voix. Allez,
j'ai peut-être une idée.
Oui.
C'est pas du Bruce Springsteen, ça?
Non, pas du tout.
Les paroles.
Allez, non. C'est une adaptation. Hein.
Ah oui, mais...
Je vous fais écouter l'original.
Allez.
C'est un peu plus rapide, hein, l'original.
Ouais.
Almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Écrite par Taffy et William Danoff, Taffy Niver qui s'était mariée avec William Danoff. Ils ont écrit ce titre et puis en chemin, ils voulaient aller le proposer à Johnny Cash et ils sont perdus sur la route, tombés du train d'une certaine façon et ils se sont arrêtés chez John Denver. Et John Denver les a aidés à finir d'écrire ce morceau, à la fois le texte et la musique, et l'a interprété et en a fait un hit extraordinaire aux États-Unis. C'est bien sûr Take Me Home, Country Roads, qui apparaît dans un nombre incalculable de films, qui est le sentiment d'appartenir à l'Amérique profonde. Hein. C'est Country Roads, c'est route de la campagne, Country Roads, Take Me Home, ramenez-moi chez moi. Et la version, on la réécoute, que vous avez écoutée, c'est celle interprétée par Elisa Erka, qui joue le rôle de Fanny dans le film de Joanne Dionnet, Avignon, personnage central s'il en est, puisque Baptiste Le Caplin, Stéphane tombe raide dingue amoureux d'elle, au point de se faire passer pour l'acteur qui interprète Rodrigue. Eh bien, elle chante aussi, elle pousse la chansonnette, et le morceau dans sa version française qu'elle a adapté, ça s'appelle « Faire un pont ».
Faire un pont pour deux ponts.
N'oubliez pas que on a une petite surprise à la fin du film. Et écoutez ce qu'elle raconte. Et sur la voix d'Elisa Erka, messieurs, donnez-nous vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera pour Enzo Avignon, Knicap et 28 ans plus tard.
Enzo Avignon, Peacock, Road Movie et Galaxy Burton aux abattoirs et au Pâté Wilson. Et puis bien sûr, Eve, lundi soir, 20h55 sur Arte.
Pour moi, ce sera Maya, donne-moi un autre titre. Comment Michel Gondry se rapproche de sa fille en lui créant des petites histoires, celles qu'elle lui demande. Hein. Il avait déjà fait Maya, donne-moi un titre, et là c'est un autre titre puisque c'est une suite. Mais sinon, je vous conseillerais d'aller voir Enzo, bien sûr, Avignon, Peacock et Knicap. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée, à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez fidèles à présence. À 20h, c'est Nathalie Cardon que vous retrouvez sur notre belle antenne. Salut, on vous laisse avec Elisa Erka.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
La famille, c'est sacré, mais parfois, c'est sacrément compliqué. Avec le père Michel Martin Prével, vous allez parler famille. Des conseils, un témoignage.